Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Le reliquaire de Saint-Maur sera exposé à partir de mercredi à Prague. Václav Klaus a paraphé 3 projets de loi proposés par le gouvernement dans le cadre des restrictions budgétaires. Les panneaux publicitaires sur le bord des autoroutes tchèques seront retirés. Le reliquaire de Saint-Maur, une pièce rare datant du Moyen-Âge, a été installé ce mardi le temps d'une exposition au château de Prague. Ce reliquaire du XIIIe siècle est en général entreposé au monastère de Bechov nad Teplou, en Bohême de l'Ouest, mais il sera exposé dans la salle Vladislav à partir de mercredi jusqu'à la fin février. D'argent et de cuivre, orné de près de 200 pierres précieuses, le reliquaire de Saint-Maur est considéré comme second trésor le plus important du pays, après les joyaux de la couronne. Le président de la République, Václav Klaus, a paraphé 3 des 4 projets de loi proposés par le gouvernement dans le cadre de sa politique de restriction budgétaire et adoptée par le Parlement tchèque. Ces lois prévoient de multiples coupes, notamment dans les domaines social et fiscal, ainsi qu'une réduction de 5% des subventions pour les partis politiques. Le président n'a pas encore apposé sa signature à la loi relative à l'imposition à hauteur de 50% de l'épargne logement. L'objectif du gouvernement est de limiter le montant du déficit des finances publiques à 135 milliards de couronnes, soit 5,5 milliards d'euros. La Cour régionale de Bohême centrale a condamné un conducteur à 5 ans de prison pour conduite dangereuse. En mars dernier, il avait forcé une voiture à se rabattre sur l'autoroute D1, l'obligeant à aller sur le côté. Personne n'avait été blessé dans le second véhicule. Le chauffeur a maintenu sa position selon laquelle il aurait perdu le contrôle de son véhicule, qu'il aurait appelé de l'aide après l'accident et fourni des compensations financières pour les dommages causés. Les panneaux publicitaires géants qui jalonnent les autoroutes tchèques disparaîtront d'ici quelques années, a annoncé ce mardi la direction des routes et autoroutes. Près de 440 panneaux, soit 20% de la publicité le long des autoroutes, seront retirés au cours du premier trimestre de 2011. La présence des panneaux publicitaires à proximité des routes a été critiquée par l'association civique Acta Non Verba, ainsi que par les spécialistes de la sécurité routière. Ce mardi, les médecins de la clinique de Motol dans le 5e arrondissement de Prague ont effectué une première opération du cancer du rein par une nouvelle technique chirurgicale mini-invasive, une laparoscopie effectuée à partir d'une seule incision. C'est une femme âgée de 62 ans à qui on a retiré un rein malade à l'aide de cette méthode. Elle pourrait quitter l'hôpital dans 4 jours. Un mot de météo, un temps couvert est prévu pour mercredi avec des chutes de pluie et de neige. Les températures seront en baisse entre 1 à 5 degrés. Nous fêterons les Émiliens en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Le président allemand Christian Wulff était en République tchèque lundi. Compte rendu de ses discussions avec les représentants de l'État tchèque en début d'émission, elle avait les yeux verts. C'est le titre d'un roman d'Arnošt Lustig qui vient de paraître en France aux éditions Galade. Enfin, on finira avec du sport, du tennis et du foot au programme de ce mardi avant de passer à la rubrique Panorama. Bonne écoute de ce programme. Le temps est venu pour la discussion sur la période de l'après-guerre en Tchécoslovaquie. C'est en tout cas ce que pense le président allemand Christian Wulff, qui a été reçu lundi à Prague par son homologue tchèque Václav Klaus et le premier ministre Petr Nečas. À cette occasion, les deux présidents se sont félicités de l'excellente qualité des relations tchéco-allemandes. Václav Richter.
C'est une véritable lune de miel entre Prague et Berlin. À l'issue de son entretien avec son homologue allemand, le président Václav Klaus l'a exprimé en ces termes.
Nous avons mené pendant 2 heures des conversations très détaillées et très amicales dont le contenu m'a fait grand plaisir. Je pense que nous sommes d'accord avec monsieur le président qu'en ce moment, les relations tchéco-allemandes sont probablement les meilleures de l'histoire. Monsieur le Président a dit une très belle phrase, à savoir que les relations actuelles sont « ein Geschenk der Geschichte », c'est-à-dire que la qualité de nos relations actuelles est un véritable cadeau de l'histoire, et cette attitude me fait très plaisir.
Ces paroles de Václav Klaus ont été confirmées par le président allemand.
Et nous sommes amis, nous sommes voisins, nous sommes partenaires dans de nombreuses organisations internationales. Nous avons une très bonne coopération économique. L'Allemagne est le plus grand investisseur étranger en République tchèque et je suis très content que vous ayez de très bons ingénieurs et un niveau d'instruction élevé. Je suis très content aussi de la coopération des régions frontalières, notamment avec la Saxe, coopération qui continue à s'approfondir.
Les deux présidents ont évoqué cependant aussi la période sombre des relations tchéco-allemandes et notamment la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre. Selon Christian Wulff, les atrocités que les Allemands ont commises à cette époque existent toujours et ils doivent assumer la responsabilité de ces crimes. Et le président de souligner que ces atrocités ne peuvent pas et ne doivent pas être comparées aux aberrations commises par les Tchèques lors de l'expulsion des Allemands des Sudètes après la guerre. Il estime pourtant que 65 ans après la guerre, les deux pays pourraient évoquer aussi cette période. Cette discussion, à son avis, ne devrait pas se limiter aux intellectuels et devrait être dépourvue de toute tension. Les deux présidents se sont entretenus aussi des questions européennes et de la situation économique actuelle. Christian Wulff a apprécié l'originalité de certaines opinions de Václav Klaus, qui, comme il a constaté, souvent ne font pas l'unanimité, mais provoquent une discussion saine et nécessaire. Une petite divergence de vue s'est manifestée seulement sur la position des deux hommes d'État vis-à-vis de la monnaie européenne. Tandis que le président tchèque se montre réticent à l'adoption de l'euro, son homologue allemand est d'un autre avis.
Personnellement, je souhaiterais que la République tchèque s'engage plus activement dans la voie vers l'euro. D'autre part, je sais que nous devons prendre encore des décisions politiques, notamment en ce qui concerne la création du système d'alarme et des mesures juridiques contre les pays violant les règles de la zone euro. Je pense que la République tchèque et son gouvernement ont joué un rôle très constructif dans ce sens. J'aimerais vous donner un peu de courage parce que je pense que les effets de l'euro en Europe sont positifs.
Mut machen der Positionierung, dass der Euro eben in Europa dort, wo er eingeführt wurde, ganz positive Effekte hat.
Christian Wulff a également apprécié le rôle que la Tchéquie joue en tant que médiateur dans les relations Est-Ouest.
Les éditions Galaad en France ont récemment publié « Elle avait les yeux verts » de l'écrivain tchèque Arnošt Lustig. C'est la première fois que cet auteur est publié en français. Emmanuelle Collard, directrice de publication de la maison Galaad, nous rappelle le sujet de ce roman.
C'est un livre qui est difficile de résumer parce qu'il a plusieurs entrées, mais en gros c'est l'histoire d'une jeune femme qui se trouve à Auschwitz et qui a plusieurs moments de sa vie, à plusieurs étapes de ce moment à Auschwitz, va avoir à choisir pour de vivre ou de mourir. Elle est sur la rampe d'Auschwitz et elle fait le choix de la vie, quitte à mentir sur son identité. Tout le début de ce livre se passe tout simplement dans un bordel à côté d'Auschwitz, où pendant 21 jours, cette jeune fille, qui n'est pas du tout préparée à devenir une prostituée, puisque c'est le choix qu'elle fait de devenir prostituée, puisqu'elle passe pour arienne, et donc elle devient prostituée au service de l'Allemagne. Pendant 21 jours, cette jeune femme va se retrouver dans un autre rôle qui est le sien, puisqu'elle est censée être arienne alors qu'elle est juive, elle devient prostituée alors qu'elle n'a que 15 ans. Et c'est toute cette histoire, ce nœud de culpabilité, mais ce nœud de jeu d'identité. Et donc l'histoire commence comme ça. Dans une deuxième partie, c'est une rédemption.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce roman et pourquoi les éditions Galaad ont choisi de le faire traduire, de le publier ?
Alors, ce roman, d'abord, c'est le roman d'une femme. Aux éditions Galaad, la politique éditoriale est tournée sur des thématiques, et parmi les thématiques, il y a la femme. Et c'est un vrai portrait de femme qui m'a séduit. Et aussi, c'est toute une réflexion, comme je le disais, sur l'identité. Donc, c'est la première raison pour laquelle j'ai été séduite par ce texte, par cette héroïne, et par cet auteur qui est un auteur qui réfléchit sur la Shoah. Il en est rescapé. Il offre un point de vue complètement différent décalée par rapport à tout ce qui s'écrit sur la Shoah, parce que justement, il passe par les femmes, et par les femmes qui sont capables de prendre d'autres décisions que les hommes dans une période de crise, où les conventions n'existent plus parce qu'elles ne peuvent plus exister, la morale n'existe plus, il n'y a plus rien de possible, puisqu'on est dans une période de crise intense, comme au moment de la Shoah. Puis j'ai été séduit par son écriture, une écriture très forte, sans pathos. Il dit les choses sans jamais partir, sans larmoyer. C'est extrêmement dur et à la fois, ça finit bien. Il y a une vraie rédemption. Voilà, c'est la raison essentielle.
On passe au sport maintenant avec du tennis. Tout d'abord, Tomáš Berdych n'a pas réussi son entrée en matière au Masters à Londres. Trop nerveux, le Tchèque a été battu en 2-7, 3-6, 3-6 par le Serbe Novak Djokovic lundi dans un match à sens unique. Guillaume Narguet.
Effectivement Anna, il n'y a pas eu de surprise pour la première participation de sa carrière au Masters, ou plus précisément au final de l'ATP World Tour, tournoi qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison. Tomáš Berdych a confirmé que la forme qui a été la sienne cet été était bel et bien envolée. Fébrile et auteur de 2 doubles fautes dès sa première mise en jeu, le Tchèque n'a pas pesé bien lourd face à Novak Djokovic et a payé ce qu'il a qualifié à la sortie du cours d'impôt du débutant. Nettement moins inspiré que lors de la demi-finale remportée face au Serbe à Wimbledon en juillet dernier, Tomáš Berdych a livré un match tout simplement trop quelconque pour espérer mieux lundi, et ce dans la lignée de ses performances ces derniers mois au cours desquels il n'a jamais confirmé son excellente première moitié de saison. Désormais, s'il entend encore se qualifier pour les demi-finales, le Tchèque devra probablement battre les deux autres adversaires de la poule A, avec d'abord l'Américain Andy Roddick mercredi, puis l'Espagnol Rafael Nadal. Mais arrivé à Londres en manque de confiance, Tomáš Berdych ne se fait déjà plus trop d'illusions sur la suite de son parcours dans ce Masters.
C'est difficile à dire, mais je pense quand même qu'il n'y a pas beaucoup de miracles en sport. Cela ne veut pas dire que je n'y crois plus, qu'il faille laisser tomber et déjà penser à rentrer à la maison. Mais dans la situation où je suis, il est tout à fait inutile de penser aux chances qu'il me reste de me qualifier pour les demi-finales. L'important aujourd'hui est de ne pas penser plus loin que le prochain match, de bien me concentrer et d'essayer de faire un peu mieux qu'aujourd'hui.
Faire mieux face à Andy Roddick ne sera cependant pas simple. Dans son match contre Rafael Nadal, l'Américain qui a fait mieux que résister a en effet longtemps mené avant de finalement s'incliner au bout de 2h30 de jeu et de 3-7 accrochés.
Et puis dans l'actualité sportive, Guillaume, il y a également du football avec la dernière journée de la Gambrinus Liga, le championnat tchèque de première division qui s'est déroulé ce week-end avant la traditionnelle trêve hivernale.
Oui, il s'agissait de la 17e des 30 journées figurant au calendrier du championnat de République tchèque 2010-2011 et de la dernière journée avant la longue trêve de 3 mois. Hiver oblige, la Gambrinus Liga ne reprendra en effet que le dernier week-end de février. En attendant, c'est l'équipe surprise de cette première moitié de saison, le Viktoria Plzeň, qui passera bien au chaud dans son fauteuil de leader. Les fêtes de fin d'année, malgré sa défaite 1-0 concédée sur la pelouse des Bohemians de Prague vendredi, Plzeň possède encore 4 points d'avance sur le Sparta de Prague. Le Sparta, justement, champion en titre, s'est imposé devant son public face à Český Budějovice 2-0, de nouveau grâce à 2 buts de son duo d'attaquants africains, l'Ivoirien Bonny Wilfried et le Camerounais Leonard Kweke. À noter que les Pragois ont encore 2 matchs à disputer en Ligue Europa, respectivement à Palerme, puis contre le CSKA Moscou à domicile. Un match nul en Italie la semaine prochaine qualifierait le Sparta, dernier club tchèque encore en lice en Coupe d'Europe cette saison, pour les 16e de finale de la compétition. Enfin, outre la place de leader du Viktoria Plzeň, l'autre grande surprise cet automne est la décevante 14e place du Slavia de Prague. Sacré champion en 2007, 2008 et 2008-2009, le Slavia filtre désormais avec la zone rouge, puisqu'il ne possède qu'un point d'avance sur le premier relégable, un autre club prestigieux du football club, Zbrojovka Brno.
Voilà, c'est tout pour les faits et événements du jour. Deuxième partie d'émission et deuxième partie de l'entretien réalisé avec Harry Polak, dont le livre autobiographique qui vient de sortir à Prague aux éditions Mlada Fronta. Harry Polak a 21 ans quand il débarque en Normandie en juin 44, après le terrible siège de Dunkerque, direction la Tchécoslovaquie natale, où la vie ne reprendra pas son cours normal. Une interview réalisée par Alexis Rosenzweig.
Panorama.
Panorama.
Nous arrivons donc à l'année 1944 et
l'invasion de France.
Vous débarquez à Romanche.
Nous débarquons à Romanche avec un retard parce que il y avait mauvais temps sur le canal.
À quelle date vous débarquez?
C'était juin. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'était en juin.
Donc quelques jours après les premiers bateaux qui arrivent en Normandie.
À peu près 10 jours après les premiers. Et on voyait dans les alentours d'Aromanche encore les restes des batailles. C'était surtout l'armée polonaise qui avait les mêmes chars que nous. On pouvait voir un grand nombre de ces chars détruits parce que les canons allemands étaient plus efficaces que les canons dans nos chars. Et ce n'était pas très encourageant de le voir. Nous avons passé le reste de la guerre au nord de la France en faisant le siège de Dunkerque. À Dunkerque était enfermée l'armée allemande, à peu près 5 fois plus nombreuse que nous, et nous, la brigade tchèque, a fait le siège.
Vous aviez de bons amis autour de vous?
Oui, j'avais des amis dans l'armée avec qui je suis encore en contact. Mais pas beaucoup. C'était aussi des intellectuels. Vous savez, on m'a appelé étudiant, et c'est un péjoratif, un étudiant, quelqu'un qui lit des livres.
L'intello du coin.
C'est juste.
Vous avez survécu à ces dures batailles, et notamment celle de Dunkerque, et puis vous avez continué vers l'est.
La plus grande difficulté à Dunkerque, c'était des mines, parce que lorsqu'on a fait des exploits pendant la nuit, les plus nombreuses blessures étaient des mines, c'est-à-dire des jambes coupées par des mines qui sautaient 50 centimètres et puis explosaient. Et moi, j'ai seulement par hasard, j'ai évité d'être tué.
Votre vie est tellement riche en événements qu'on est obligé d'aller un peu rapidement pour passer à la suite, même si cet épisode est effectivement très bien décrit dans votre livre. Vous poursuivez vers l'est et vous découvrez petit à petit les horreurs laissées par la guerre et les bombardements pour arriver sur le territoire tchécoslovaque.
Oui, nous sommes arrivés en Tchécoslovaquie où on nous a reçus comme libérateurs avec des drapeaux et des jeunes filles en croyée.
En dentelle et en habit traditionnel.
C'est juste. Et nous avons fait la parade en Prague. Nous sommes arrivés avec nos chars à Vipich. Et puis c'était un accueil très chaleureux.
Cela dit, vous racontez dans votre livre un événement assez intéressant, à savoir qu'on vous a bloqué dans une petite ville pendant 3 jours en soi-disant quarantaine, mais apparemment parce que vous étiez trop bien équipé et que les soviétiques voyaient ça d'un assez mauvais œil.
Oui, c'était le bruit qui circulait. On nous a jamais expliqué pourquoi, mais je dois vous dire, c'était vraiment un disappointment.
Une déception.
Une déception en arrivant à la frontière d'être enfermé pendant 3 jours.
C'était où? Dans quelle ville?
Immédiatement après la frontière, alors entre la frontière et Pilsen.
On reparle ici en République tchèque en ce moment des atrocités commises contre les Allemands à cette période, au moment de la fin de la guerre, et de tabous dont elles ont été entourées pendant toute la période du communisme. Est-ce que vous avez été témoin de ces atrocités et de cette période? Vous la décrivez un peu, cette période, dans votre livre, où les gens ont retourné leur veste très facilement. Mais vous avez vu ça de vos yeux?
Non, indirectement. Par exemple, on a traité les Allemands qui étaient en Tchécoslovaquie à ce moment à peu près de la même façon que les Allemands ont traité les Juifs. On les a mis dans les trains et on les a envoyés en Allemagne. C'est une question de justice de guerre. Ce n'était pas fair.
Et c'est au début que vous apprenez petit à petit que toute votre famille a été déportée, assassinée, souvent par le ghetto de Térézine, puis dans les camps d'extermination, et que vous n'avez plus de famille à Prague ou dans le reste du pays, là, dans la Bohème, où votre famille avait également séjourné.
C'est juste. On ne savait jamais, parce qu'il y avait des cas où des gens apparaissaient, étaient perdus, mais apparaissaient 3 mois ou 6 mois après, de quelque part, où ils ont pu survivre. Et quelques-uns d'eux étaient aussi marqués par ce séjour qu'il n'était plus normal. Il y a des cas comme ça. Et c'est pour cela que j'ai essayé de regagner la propriété pour que, si quelqu'un retournait, qu'il avait une base sur laquelle il ou elle pouvait vivre. Mais malheureusement, ce n'est pas passé.
Après le coup de Prague en 1948, comme de nombreux soldats qui avaient servi dans les armées occidentales, vous n'êtes pas bien vu par les autorités, et cela vous pousse, alors il va y avoir un long processus, mais on est obligé d'aller rapidement, encore une fois, qui va vous pousser à songer à un exil, à un deuxième exil, cette fois-ci avec votre épouse, et vous repartez en direction de l'Ouest à pied.
C'est juste. Vous savez, lorsque les communistes ont pris le pouvoir, ils ont tout d'abord pris mon décret d'ingénieur et me faire impossible d'obtenir un emploi. Et je suis retourné à la ferme, et pendant un an, j'étais fermier. Mais avec beaucoup de difficultés.
Et les habitants locaux qui vous mettaient des bâtons dans les roues?
Exactement. Et c'était très difficile de survivre. Et finalement, ils m'ont confisqué, le conseil local m'a confisqué la ferme en disant que je suis ingénieur, à ce cas pas capable de gérer une ferme, quoique je l'ai démontré pendant un an. À ce moment, je savais qu'il n'y a plus moyen de vivre en Tchécoslovaquie et il fallait trouver une façon de partir sans passeport à travers les montagnes, ce que nous avons fait à la fin de novembre 1949. 20 kilomètres à travers les montagnes.
Dans la Choumara.
Oui, Bobine. C'est une forêt vierge avec 10 centimètres de neige. Et c'est un petite merveille que nous avons pu le faire physiquement et que nous avons échappé tous les obstacles qui sont en vie. Et nous sommes psychologiquement, nous sommes finalement arrivés en Allemagne avec qui j'étais en guerre pendant 5 ans pour demander un asile comme réfugié. C'était pas très facile.
Vous choisissez à ce moment-là, d'abord vous êtes hébergé dans un camp de réfugiés et vous choisissez de demander un visa pour la Grande-Bretagne. C'est au moment de la création de l'État d'Israël. Est-ce que un moment vous songez ou vous avez l'opportunité de partir en Israël?
Non, vous savez, notre famille était juive et nous n'avons pas renoncé d'être juifs, mais nous n'étions pas une famille religieuse. Et je n'avais pas de sentimentalité pour aller en Israël. Quoique, où je me suis, j'ai essayé d'obtenir du secours, on m'a toujours dit, pourquoi ne voulez-vous pas aller en Israël? On va vous payer le passage, on va tout arrangé. Je voulais aller en Angleterre parce que j'avais le sentiment que, ayant fait la guerre pendant 5 ans en Angleterre, que je serais mieux accommodé là, et aussi que la culture là-bas est suitable,
me convient,
convenable pour moi, et que je vais pouvoir appliquer mon savoir plus facilement qu'en Israël.
Fin des émissions en français de Radio Prague. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1.30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.